Voilà, soyez bienvenus autour de la parole de Dieu. Voilà, nous poursuivons sur cette étude, sur la vie du disciple, avec des éléments d'étape. Hein. Il est toujours bon de pouvoir poursuivre et voir tout ce que le Seigneur peut nous enseigner. Jésus a dit d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des disciples, hein, mais aussi de baptiser. Puis il dit aussi, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Merci Seigneur, amen. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Nous allons mettre tout d'abord à l'écran un texte qui va nous servir de base pour commencer. Alors sur cet aspect, ce soir, la vie du disciple, je vous ai parlé de la croissance, mais il y aura aussi les habitudes du disciple, voilà, qu'il y aura avant. Les bonnes habitudes qui amènent la croissance. Hein. Il n'y a pas de croissance comme cela sans de bonnes habitudes d'un point de vue biblique. Donc, il y aura deux parties. Hein. On va essayer d'en profiter au maximum. Donc, acte 2, 37, nous sommes juste après l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte, lorsque Pierre est envoyé, lui qui a renié Jésus, lui qui va et qui annonce le plein évangile assez succinctement, assez rapidement, et faisant part aussi des textes qui parlent de Jésus qui devait mourir mais aussi ressusciter. Et donc, après ces quelques mots, voilà ce qui est dit au verset 37. « Après qu'ils eurent entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, et disant « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Alléluia. C'est beau de voir l'œuvre que le Seigneur peut accomplir. Il est capable de tout faire et parfois d'un coup d'un seul. Hein. Nous pouvons nous rappeler cette deuxième diapo. C'est le modèle. Nous avions évoqué la fois précédente que Jésus est le modèle par excellence. Quand on veut du vrai, quand on veut tenir dans la durée, quand on veut avoir une base de référence, un appui certain, c'est Jésus et uniquement, et lui seul, la personne de Jésus. Amen. Jésus le modèle. Alors je ne reviendrai pas sur ces différents éléments qu'on a pu aborder, hein, tout ce qui caractérise Jésus le modèle parfait, le modèle par excellence. Jésus, eh bien, Dieu, de Jésus, du modèle, sera façonné des personnes, des disciples. Et si nous sommes disciples de Jésus, c'est parce que c'est l'œuvre de Jésus. Amen. Et tout commence du plan, Jésus, lui, le modèle. Et d'ailleurs, Jésus, lui, était charpentier avec son père Joseph. Hein. Vous avez ça dans Marc 6, 3, et était connu comme fils d'un charpentier, Matthieu 13, 55. Et vous voyez, Jésus le modèle, on avait parlé du modèle, c'est celui, c'est un peu comme le papier calque, vous voyez, on le place par-dessus le plan et puis on dessine. On avait parlé de dessiner les contours, définir les dessins, ceux qui apprennent à écrire les lettres comme un dessin, on ne sait pas forcément toujours bien faire. On a besoin d'apprendre et on a besoin du modèle et par lequel on met le papier transparent, on pourrait dire, et on apprend à retracer les choses. Mais si nous avons un plan, c'est bien. Mais on ne peut pas prendre n'importe quel bout de bois, n'importe quel travail va devoir s'accomplir si le bois n'a pas été façonné et si le bois n'a pas été usiné. Nous avons des plans, c'est une chose importante. Nous avons le modèle, nous avons Jésus, nous avons la base, la référence. Mais si nos vies ne sont pas modelées, transformées, façonnées à son image, à quoi ça sert? Parce que vous savez, d'un arbre, on le coupe et après on le déligne et on en fait des plateaux. Les troncs dans l'épaisseur, vous en coupez des plateaux et le plateau remis à plat avec toutes les différentes tranches. Vous avez la dose, la contre-dose, etc. Et vous avez ce qu'on appelle une bille de bois. Hein, c'est les différents plateaux qui sont là. Et les plateaux, ils sont bruts. Et avec le séchage, le bois va se déformer avec plus ou moins du temps. Il faut du temps pour que ça sèche et que ça tire, parce que le bois tire à cœur et il faut du temps pour que ça sèche. Et puis, quand vous prenez un plateau, vous délignez souvent le bord de l'écorce qu'il y a là. Vous le délignez, vous coupez les sections de bois et puis la section de bois, plus ou moins peut-être voilée, ce qu'on appelle dans le métier être gauche. Être gauche, même si vous êtes droitier, c'est gauche et c'est avoir quelque chose qui n'est pas forcément bien proportionné. Hein. Donc l'usinage du bois, c'est ce que je voudrais vous donner de percevoir, c'est que l'usinage du bois est important. On ne peut pas avoir un tracé, avoir une épure, avoir un plan, un modèle, un gabarit, et s'il n'y a pas quelque chose qui est usiné. Et ça nous montre aussi l'ouvrage de nos cœurs, de nos vies, et qui a besoin et sans cesse d'être façonné, transformé. Ça voudrait dire on aurait le modèle, mais si ma vie n'est pas façonnée, ça pourrait servir à rien. On ne pourrait pas avoir la même perspective de faire un travail en bonne adéquation si mon cœur n'est pas propre et propice à faire l'œuvre du Seigneur. Donc le morceau de bois, le cœur, la personne, eh bien, s'ils ne sont pas façonnés, ça resterait incohérent. Le bois brut est gauche et on le dégauchit. Ça va jusque-là ? Hein, c'est un cours de menuiserie, là, je vous fais. On le dégauchit, ça veut dire qu'en fait, vous avez une machine, hein, c'est avec des tables, et vous avez un arbre qui tourne très vite, et puis ça fait un peu l'effet de rabotage. Mais vous avez besoin d'avoir des sections de bois à la perpendiculaire. Et donc, dégauchir, vous allez faire le premier passage et après, vous allez mettre la section de bois sur le côté, vous allez le tourner, de manière à avoir un équerrage. Vous voyez ? Et le bois qui était vrillé au départ, qui était gauche, va devoir avoir des perpendiculaires. Et après, d'une face à une autre, vous allez raboter. Ça va ? Je ne vous perds pas. Hein ? Vous avez un bout de bois qui est... Voilà, on va prendre ça... on va prendre ça, on va dire qu'il est un peu plus épais. Et ben vous faites les quatre faces, mais au départ, vous devez faire l'équerrage qui est là, et de là, vous allez faire l'autre côté, et de là, vous allez faire aussi l'autre côté. Donc, on va faire les perpendiculaires, on dégauchit le bois. Ensuite, on le rabote, c'est les premières étapes du corroyage, la préparation du bois. Et pour vous dire qu'en fait, on a tous besoin d'être rabotés, dégauchis, parce qu'on est gauche. Le péché habite en moi. Et si je ne viens pas au Seigneur, les choses sont trop abruptes. Ça ne peut pas correspondre au plan, au projet de paix que le Seigneur a tracé. Parce qu'on est gauche et on va tout mettre par terre. Donc on a besoin de la nouvelle naissance, de la conversion de cette vie, cette repentance qui plaît au Seigneur. Regardez voir, lorsque 2 Timothée 1,13 vient, et lorsque Paul dit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle, des saines paroles que tu as reçues de moi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » On pourrait dire le modèle des saines paroles ne peuvent pas nous correspondre. Ne peuvent pas nous être donnés, on ne peut pas les assimiler par nous-mêmes. dont nous parlions au début comme la dégauchisseuse. Donc, en fait, garde le bon modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, vient pour redresser la pensée des cœurs. Vient pour transformer nos vies qui sont gauches ou tordues par les tensions internes, les mauvaises influences, par le péché de nature. Et en fait, il redonne une base plane et d'équerre, une référence stable sur laquelle on peut construire le reste de notre vie, sinon tout l'édifice ne tiendra pas. Hein, je vous avais dit la fois précédente, sans le modèle, ça ne peut pas se faire. On avait parlé de l'épure, qui est le plan que vous voyez là. C'est un plan qu'on met à plat. Si vous voulez avoir un tracé de charpente, il faut que ce soit mis à plat. Il faut qu'avec Jésus, on mette tout à plat. Avec Jésus, on se remet à plat sur notre face peut-être, sur nos genoux. On remet tout à plat. On peut tracer, préparer. Et puis les choses sont travaillées. Mais il faut que le bois soit travaillé. Il faut que nos cœurs, il faut que nos vies soient travaillées. Sinon, le Seigneur ne pourra pas faire ce qu'il aurait tant voulu. Tant désiré pour chacune de nos vies. On va relire le verset 37 et 38. Merci Gaëtan. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. » Pourquoi les cœurs ont été touchés ? Par la parole puissante, par l'action du Saint-Esprit qui s'était manifestée d'une manière chez les disciples et là d'une autre manière pour toucher les cœurs. Merci Seigneur. Pierre leur a expliqué ce qui concernait Jésus. Jusque-là, la plupart des auditeurs de Pierre avaient pensé que si Jésus avait été condamné, c'est parce qu'il était blasphémateur et qu'il méritait sa condamnation, un rebelle qui était justement puni par l'autorité romaine. Mais là, il leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous change d'attitude. » Amen. Ah oui, ce discours leur apprend que la condamnation était prévue par la loi, par les prophètes, et qu'il a payé le salaire que méritaient nos péchés, nos crimes sur sa croix. Sa résurrection a démontré qu'il était sans péché et que sa condamnation avait été injuste. Donc les Juifs, ceux qui étaient là et qui étaient touchés, ces 3000 qui étaient là, ils ont besoin de changer d'avis sur Jésus. Ils ont besoin de se convertir. Tout de suite, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, oui, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Jésus est venu. Et il est déclaré maintenant Messie et Seigneur par sa résurrection d'entre les morts. Il explique et Pierre remet les choses à leur place. Et en peu de temps, ils comprennent et saisissent que Jésus est la pierre de l'édifice. Sans Jésus, on ne pourrait pas y arriver. Sans le modèle, on ne pourrait pas avoir du bon bois à raboter. On ne pourrait pas avoir un ouvrage cohérent. Sans Jésus, ça ne tiendrait pas. Sans Jésus, on ne pourrait pas réussir. Et donc, il a fallu que Jésus vienne, et le Seigneur est le Sauveur pour chacune de nos vies. Alors oui, Jésus n'est pas un imposteur, il n'est pas quelqu'un non plus qui vient pour perturber nos vies, un trouble-fête, comme les Juifs le percevaient à l'époque, mais il est là justement pour bien établir, bien construire l'édifice de chacune de nos vies. Il est là, oui, et encore ce soir, il est là pour nous montrer, oui, toute la vérité qui est en lui. Amen. Oui, de là, ils sont allés plus loin. Ils sont allés pour se repentir, reconnaissant et comprenant que sans Jésus, leur vie était perdue. Ils avaient vraiment besoin de Jésus, du baptême, l'image d'une mort, d'une vie nouvelle dans la grâce de Dieu. Alors, merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il est le modèle sur lequel nous pouvons construire et faire toutes choses pour la gloire de son nom. Amen. Une autre diapo. Voilà, je vous propose un petit exercice pour voilà, la première facette puisse être digérée. Jean 15, 5. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors la question, Selon les paroles de Jésus, quelle est la condition indispensable pour qu'un disciple porte du fruit ? S'isoler du monde, reconnaître toute la loi, travailler sans relâche, demeurer en Christ. Donc la réponse D, ça vous va ? Y a-t-il d'autres avis ? Non, ça va ? Bon, merci Seigneur, vous avez réussi avec brio cette première question. Allez, on continue. Diapo 4. Vous avez là une lecture, acte 2, 42. Donc là, vous avez un canevas important. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous avons, par ce texte, l'onction du Saint-Esprit, qui a été répandue parmi les disciples, qui étaient en prière, visités, et aussi par l'action du Saint-Esprit pour les gens de l'intérieur. Donc Dieu voit, non pas double, mais Dieu voit à l'intérieur comme à l'extérieur. Il voit ceux qui lui appartiennent et il voit ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Et il sait faire toutes choses en son temps et pour sa gloire. Dans cette journée, c'est le premier jour de la semaine. Et il y a eu ce jour-là un temps de visitation et pour tous, merci Seigneur. Ce même jour, ils sont passés de 120 disciples plus 3000. Ah oui, c'est un petit peu plus nombreux là. Donc, soit l'équivalent de 25 personnes pour chaque disciple. Ah ben oui. Eh ben oui, parce qu'il faut quand même considérer, frères et sœurs, que Jésus les a façonnés. Ils ont passé 3 ans. Jésus est reparti, il leur a donné mandat d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, le Saint-Esprit les a remplis et maintenant, il faut y aller. Maintenant, il faut aller de l'avant. Maintenant, il faut s'occuper de ces 3000. Quelle prise en charge, vous rendez compte ? Que d'un dimanche à un autre, on aurait 25 personnes à pouvoir aiguiller, accompagner, entourer pour leur parler de Jésus. Oh là là, et pas trop vite. Il n'y aurait que ceux qui sont les Gédéons qui pourraient... il fallait que je te l'attende, celle-là. Mais imaginez quand même, de 120 à plus de 3000, 3120 on pourrait dire, c'est ça. Donc il faut qu'il y ait de bonnes habitudes qui soient prises, et vous le voyez, c'est aussi ce sujet qu'on va essayer de voir. Diapo 5, vous avez là, dans ce que nous avons pu voir, les bonnes habitudes qui se sont trouvées. Et en fait, après avoir parlé des 3000, ils persévéraient. Ça veut dire que 120 plus 3000, ensemble et d'un même cœur, ils arrivaient à persévérer. Ayant ces quatre aspects des choses qu'on a pu voir dans ce verset. À la naissance d'un bébé, on vérifie qu'il soit en bonne santé, qu'il prenne du poids, sa croissance. Et puis on va le mesurer, le peser régulièrement pour s'assurer qu'il soit en bonne santé. Un bébé qui ne grandit pas est une source d'inquiétude pour ses parents, n'est-ce pas ? À la sortie de la maternité, il ne sera possible que si tout est bien rassurant à son endroit. De la même manière, un chrétien qui ne mûrit pas spirituellement ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. S'il y a une certaine stagnation spirituelle, ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste au même niveau toute notre vie. Il veut qu'on progresse, qu'on avance, qu'on se développe et qu'on découvre encore les facettes et le plan qu'il y a en Jésus, notre Sauveur. Il veut que nous devenions forts dans la grâce de Dieu en Jésus. Amen. Alors, le matin, quand vous vous levez, je ne sais pas si vous avez des petits rituels. Moi, j'en ai un, je vais vous le dire, mais le dites à personne. J'en ai un, mais vous savez, c'est un sacré défaut. C'est d'aller prendre un petit café. Et c'est, voilà, ça démarre comme ça. Et on a tous des rituels dans la vie, on a tous des habitudes. Bon, pourvu qu'elles soient bonnes. Pourvu qu'elles soient bonnes. Mais voyez-vous, on a toutes ces habitudes quotidiennes et j'en ai trouvé une chez Jésus. Il avait une habitude, une autre diapo, diapo 6. Jésus se retrouvait, il avait une habitude, il se retrouvait lui aussi à avoir des habitudes. Et puis dans le jardin de Gethsémané, Et il nous est dit dans Matthieu 26, 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. À la suite du ministère de Jésus, il faut quand même dire ses enseignements, ses temps de prière, etc. Autant de détails qui certainement nous échappent, mais dans le quotidien avec Jésus, il y a eu ses habitudes qui ont favorisé la croissance des disciples. Ça ne les a pas laissés indifférents. Ça a travaillé, ça a trouvé le chemin de leur cœur. Et merci Seigneur, oui, aux côtés de Jésus. Rappelez-vous que Jésus a été le modèle pour les disciples. Après son ascension, les disciples sont restés comme marqués de l'empreinte de Jésus, Hébreux 1, 3, et aussi marqués des sentiments qui étaient en Jésus, Philippiens 2, 5. Et les disciples ont copié, reproduit ce que Jésus leur a enseigné. Alléluia. Et déjà, nous voyons vraiment des choses importantes qui constituent ce modèle d'exemple, diapo 7. Nous avons là le disciple qui apprend. Le disciple qui apprend parce que nous devons dire, quand on parle de Jésus le modèle, Jésus l'exemple, il y a vraiment une continuité dans l'exemple entre ce que Jésus a été et ce que l'homme de Dieu Paul, l'apôtre Paul, va donner. Et vous allez voir des éléments, c'est que tout d'abord Jésus pose le modèle par ses actes. Par exemple, laver les pieds des disciples, Jean 13, 13. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Exemple, il revient. Le mot modèle, exemple, ces mots qu'on avait détaillés la fois précédente. Jésus est celui qui dit dans Matthieu 20, verset 26, il est venu pour, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il y a une continuité parfaite dans l'exemple. Entre ce que Jésus a enseigné et puis ce que l'apôtre Paul va aussi enseigner. L'apôtre Paul, exhorte les chrétiens à fixer les regards sur ce modèle et sur ceux, comme lui, essayent de le suivre fidèlement. Regardez quelques textes que je vous mentionne. Philippiens 3, 17. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Éphésiens 5, 1. Philippiens 3, 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. » Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Merci Seigneur. Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de sa longanimité et pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Merci Seigneur. Philippiens 4, 9, à pas oublier, Paul dira aussi, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Merci Seigneur. Amen. Diapo 8, allez, un petit exercice pour vous détendre un peu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, la stature parfaite de Christ. Donc la question, quel est l'objectif final de la croissance du disciple selon Éphésiens 4, 13 ? Apprendre toutes les langues anciennes, devenir plus puissant que les autres, éviter toute forme de souffrance ou parvenir à la stature parfaite de Christ. Vous êtes sûr? Vraiment sûr? Bon, c'est très bien, vous avez gagné. Merci Seigneur. Allez, on reprend, on continue. On ne s'arrête pas. Diapo 9. Voilà, nous avons les quatre colonnes de l'édifice du temple. Il persévérait. Donc c'est nécessaire de concevoir la vie chrétienne avec tout d'abord la persévérance, mais avec des éléments inévitables, incontournables, pour nous aider, nous enseigner. Dieu fait son œuvre, mais son œuvre est soutenue par les quatre colonnes, et on a vraiment besoin de se le dire et se le redire, et toujours le vivre. Oui, parce que c'est important. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et du vin, et puis aussi les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 2:2. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, comme des bébés qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Un enfant, pour grandir, a besoin du lait maternel, mais après du lait premier âge, deuxième âge, etc. On ne va pas lui donner le beefsteak d'emblée. Hein, il n'y a pas de dents, de toute façon. Et donc, du coup, on a besoin de vérifier la croissance au fur et à mesure de son développement. Et la parole de Dieu, étant sans mélange, elle est celle qui nous donne toute cette croissance nécessaire au fur et à mesure de notre vie. Le Seigneur ne va pas aller trop vite, mais il y va en son temps pour nous aider. Amen. La méditation de la parole de Dieu nourrit notre esprit, affermit notre foi, nous guide dans nos décisions, nous apprend à avoir ce miroir devant nous pour nous refléter ce qui est nécessaire et nous montrer là où nous devons encore apprendre de sa personne. Et puis, bien sûr, on ne veut pas rester, même si c'était une époque sans soucis, hein, la période de l'enfance. Mais on ne reste pas dans le stade de l'enfance. On apprend et on grandit avec la grâce de Dieu. Amen. La nourriture solide est pour les hommes faits et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 5,15. Il nous faut, frères et sœurs, rester enseignables, modelés, transformés avec l'aide de la grâce de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux autres si nous-mêmes, on n'assimile pas, hein, on n'a pas mangé, digéré? Savez-vous que le pélican peut accumuler dans son bec, en forme de vaste poche, les poissons qu'il a capturés? Mais il ne pourra pas tout avaler d'un coup. Hein, on a vraiment besoin de pouvoir digérer, recevoir la parole de Dieu. Éphésiens 4,13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. 2 Pierre 3,18, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, hein. Et vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs, nous dit 2 Corinthiens 3:3. Merci Seigneur. Il persévérait dans la communion fraternelle. Hein ? Si l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien, les paroles sont esprit et vie. Mais il y avait besoin de cette vie qui nous rapprochait du cœur de Dieu et qui pouvait alimenter, se répandre aussi dans la communion fraternelle. Les premiers chrétiens étaient-ils méfiants? Étaient-ils distants, méchants, fourbes, calculateurs dans leur relation? Non, certainement pas. Et si nous disons aimer Jésus, nous faut aimer notre frère. À ceci, tous connaîtront. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, la communion nous est précieuse pour pouvoir apprendre et de pouvoir s'entretenir, oui, dans la communion du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Il persévérait dans la fraction du pain. La scène se faisait, hein, à cette époque-là, sous forme de repas, d'agapes, partager le pain et le vin. Et il persévérait à manger ainsi les repas et aussi la scène. Et l'ordre qui avait été remis aux Corinthiens, c'est que certains se précipitaient de manger, ils buvaient de trop. Et donc, il y avait besoin d'avoir de l'ordre, hein, aussi dans cette fraction du pain. Il persévérait aussi dans les prières. Oui, notre cadre de vie, notre siècle aujourd'hui ne nous poussera jamais à la prière. Ça, c'est sûr. Si on ne prend pas du temps, si on ne s'impose pas du temps, c'est sûr que tout sera fait pour nous en détourner. Donc on a besoin de trouver des solutions dans ces quatre appuis, ces quatre colonnes, pour nous aider. Nous avons besoin de, voilà, que notre esprit atteigne cette maturité, puis de muscler par l'exercice de la prière, nourrir, hydrater, s'entretenir, hein, avec cette parole de Dieu. 1 Timothée 4,15 « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. Il parlait là à un jeune serviteur, mais si on n'a pas ces prérogatives-là, si on n'a pas ces ambitions-là, alors c'est sûr que c'est un grand risque pour nous. On a besoin de ces quatre valeurs, ces quatre colonnes, hein, comme on a pu le voir. Sinon, ça emmènerait, ça risquerait d'être quelque chose qui nous emporte dans un déséquilibre. Et c'est rien de pire et de plus néfaste que nous soyons dans le déséquilibre. Un chrétien dans le déséquilibre, un serviteur dans le déséquilibre, etc. Une église dans le déséquilibre ne serait pas à renvoyer l'image parfaite du modèle. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Hein, que Dieu nous fasse grâce. Alors, diapo 10. Lecture. Donc, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Hein. Donc, ce verset donne suite à la conversion de Saul. Et c'était devenu un temps opportun donné par Dieu. Et ça a été l'amorce, hein, de cette croissance, encore une fois, et renouveler, on va dire, la croissance de l'Église. On a vu la première partie, les habitudes du disciple. On va vers maintenant la croissance et les étapes de croissance du disciple. Mais avant, on va faire un diapo 11. Tadam, voilà. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quel rôle joue la parole de Dieu dans la croissance du disciple? Une option facultative? Un fardeau difficile à porter? Un lait spirituel pur pour la croissance ou un simple livre d'histoire? C'est du lait et toujours du lait, hein? Voilà, vous êtes vraiment doués, hein ? Merci Seigneur. Hein ? Très bien, diapo 12. Voilà la croissance du disciple. Ce dont nous allons parler maintenant, c'est suite aux bonnes habitudes prises qu'il en découlera la croissance spirituelle de chacun et de l'œuvre de Dieu. La croissance ne pourra pas d'être d'un claquement de doigts où Dieu nous devrait la croissance sans qu'on ait fait aussi notre part, frères et sœurs. Nous avons une croissance qui se fait et qui se fera si nous avons et nous adoptons, et puis on aurait pu en parler encore, hein, sur les habitudes du disciple. Hein. Donc la Bible illustre effectivement le progrès dans la vie chrétienne d'une manière assez dynamique, présentant non pas comme un statut fixe, mais une évolution, une progression, un processus continu de croissance et de transformation, et que Dieu nous aide et nous entraîne encore plus loin dans ses voies, hein, favorisant la vie d'en haut. Diapo 13, la croissance des disciples. On peut se rappeler que la nouvelle naissance, c'est avant tout le point de départ, c'est le go, hein. La vie, cette croissance démarre par la nouvelle naissance. Et nous rappeler que avant de parler de croissance, il faut d'abord exister. Il faut d'abord, on ne peut pas demander à un enfant qui n'est pas né de grandir. Et en Christ, on a besoin d'être enfanté à la vie et laisser la vie de Dieu nous remplir, nous inonder, faire de nous une nouvelle création. Et c'est ainsi qu'il peut nous emmener dans la croissance. Ne pas emmener un inconverti, quelqu'un totalement indifférent, insensible aux choses de Dieu, de lui dire « faut que tu grandisses dans le Seigneur ». Ce n'est pas possible. La croissance spirituelle est donc, vous le comprenez, un impératif, hein, de tous. Et croître suppose aussi que ça commence petit et ça doit tendre à devenir un peu plus grand et un peu plus grand. Et puis aller jusqu'à même parler de perfection qu'il y a en Christ. Se développer, évoluer, atteindre Et il nous faut du temps pour ça. Vous savez que évoluer, on n'évolue pas comme ça. Hein, mais on a besoin d'apprendre à évoluer dans les eaux douces, dans les remous, dans les tempêtes. On a besoin de ces facettes et cet apprentissage de la vie et dans cette communion, cette relation avec le Seigneur. Parce que oui, il a besoin de nous renforcer, de nous équiper, de nous solidifier, de nous donner la consistance, mais aussi d'être affermi, de parler de maturité. Et puis, à nous-mêmes, on en viendrait à dire « j'y arriverai jamais, ça me paraît au-delà de mes limites ». Eh bien oui, c'est sûr que Dieu, progressivement, va nous emmener plus loin. Et ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et merci Seigneur. Alléluia. Un aiglon ne vole jamais avant qu'il ne soit en mesure de déployer ses ailes. On ne va pas lui dire « allez, va voler » alors que il peut pas encore, il n'a pas encore pris le temps de cela. Une maison ne devient pas habitable tant que la construction n'est pas achevée. Un bébé ne mangera pas une nourriture solide tant que son système digestif ne sera en mesure de l'assimiler. Donc il nous faut atteindre la stature d'homme ou de femme mature. Et donc Dieu veut notre croissance. Mais nous en faisons notre définition de la croissance. Nous avons nos repères et nos appuis qui nous sont propres et personnels dans ce qu'on veut bien, dans ce qu'on chérit, dans ce qu'on préfère. Mais Dieu veut la croissance du disciple, de son peuple, de son église. Bref, une vie de progrès. Et puis, quand on voit quelqu'un qui dépasse celui qui l'a enseigné, un apprenti qui dépasse, oui, il a pris tellement d'éléments d'aisance et on dit, oh, l'élève a dépassé le maître. Sauf que là, jamais on dépassera le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on a besoin d'apprendre au modèle de Jésus. Amen. Alors maintenant, on va pouvoir rentrer dans cette croissance, cette progression. Cette diapo 14 va vous donner ce premier ton. Oui, le pas à pas. L'obéissance quotidienne et la fidélité de Dieu. On fait notre premier pas. On apprend à faire ce premier pas. Et puis on en fera un deuxième, un troisième. Et la vie chrétienne, c'est une progression tranquille et qui évolue et évoluera en fur et à mesure. On n'a pas besoin, comme Jésus l'a dit, oui, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour sera son pas et on avancera à la manière qu'il le voudra, dans sa bonté, dans sa fidélité. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « voici le chemin, marchez-y » Ésaïe 30, 21. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Comme Philippiens 3,16 qui est affiché nous le dit. Donc nous avons besoin, pardon, comme Paul le dit aux Colossiens 2,6, marcher en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Amen. L'expression pas à pas nous montre que ce n'est pas impossible. Le Seigneur a soin de nous aider. Quand on parle de randonnée, on ne va pas parler d'être arrivé avant d'avoir commencé. Et puis, même si ça nous paraît impossible au départ, de se dire « j'ai pas la capacité que tu as, j'ai pas la même facilité que toi », eh bien, que pas à pas et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte eh bien, qu'on n'atteint pas le sommet d'un coup d'un seul, mais qu'on a besoin de mettre un pied devant l'autre. Et chaque pas, même petit, est essentiel pour nous rapprocher du but. Le Seigneur ne va pas trop vite avec nous. Il ne nous demande pas d'avoir couru, d'avoir fini avant d'avoir démarré. Le Seigneur est conscient et prudent avec nous-mêmes, sachant que dans la vie, il faut y aller doucement, ou comme certains disent, il faut y aller mollo. Parce qu'on ne peut pas arriver ou à faire croire qu'il faut faire de grandes foulées d'un seul, d'un coup. Vous allez vous essouffler, vous allez finir sur les genoux, bien que c'est pas mal aussi sur les genoux. Mais on a besoin d'avancer au pas le pas. Quelle mesure de précaution lorsque, des fois, on a été trop vite, on s'est brûlé les ailes. Et on a besoin d'avoir une mesure de précaution où on avancera au fur et à mesure avec le Seigneur. Amen. Il s'agit de marcher avec Dieu. Hein? Michée 6,8. Oui, c'est les petites décisions quotidiennes. Des moments simples et essentiels de la vie. La marche d'un pas. Eh bien, dans la parole de Dieu. Le terme exact, hein, pas à pas, n'est pas forcément une expression telle quelle dans les traductions standards, hein, que voilà, je vous ai déjà mentionné, la première je vous ai mentionné, mais c'est les traces de pas des disciples, pas à pas. Jésus leur a dit, même si il y a des choses que vous ne savez pas, le Saint-Esprit vous les révélera plus tard. Donc, commence, avance, fais déjà tes pas. Va pas chercher à comprendre ce que Paul recevra en révélation plus tard. Mais on a besoin, au fur et à mesure, d'avancer. Vous savez que la marche, parfois, est compliquée. Peut-être pour certains, et selon leur capacité, vont faire deux pas dans la journée. Et vous, votre application va vous dire, vous en faites 5000. Ah, c'est pas la même notion de distance. Mais les pas, et au fur et à mesure, afin que vous suiviez ces traces. 1 Pierre 2,21, c'était le texte qui nous sert de modèle quand on parle d'exemple. Hein ? Marchions par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,6. Galates 5,16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Éphésiens 4,1, marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Hein, donc, bon, j'en ai beaucoup, on ne pourra pas forcément tout voir. Mais il y a une autre diapo qui nous dit de marcher de progrès en progrès. C'est notre étape. Si on fait un pas devant l'autre, on a besoin de concevoir que ce pas devient un progrès en progrès. Hein, c'est merveilleux. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites, nous vous prions, conjurons, de marcher au nom du Seigneur Jésus, à cet égard, de progrès en progrès. Hein, c'est avancer ou faire des progrès. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès ou ton avancement soient évidents pour tous. Hein. 1 Timothée 4,15. Donc c'est merveilleux de voir qu'il y a pas à pas, de progrès en progrès. Allez, avant d'aller plus loin, ah oui, parce que sinon, vous n'allez pas retenir. Vas-y, mets une autre diapo, la 16. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Quelle métaphore l'apôtre Paul utilise-t-il fréquemment pour décrire la croissance et la discipline du disciple ? Le sommeil d'un voyageur ? La course d'un athlète dans un stade ? La construction d'un navire de guerre ? La recherche d'une pièce d'argent ? B. Ah, vous êtes incollable, hein ? Vous êtes incollable. Oui, c'est vrai que cette image, eh bien, comme je vous ai dit, de progrès en progrès, hein, le coureur va avancer de progrès en progrès, au fur et à mesure. Ses progrès, pour lui, c'est la course, c'est l'entraînement, c'est voilà, répéter, revoir les mêmes choses, et cela l'aidera à avancer sur des progrès significatifs dans ses performances. Amen. Diapo 17. De plus en plus, nous voyons cette croissance aussi s'amorcer par ce texte, Philippiens 1, 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de moins en moins. Non ? Ça vous irait, ça ? Non, ça ne serait pas bon, hein ? Mais un amour qui augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est, eh bien, par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu. Amen. Ce texte nous amènerait à dire, Seigneur, on en veut plus. On a besoin plus de toi, mieux te connaître. Donne-m'en plus, Seigneur, de plus en plus. Nous puissions te connaître et te contempler. Nous puissions augmenter de plus en plus. C'est mauvais, négatif, si vous avez quelqu'un qui vous aime de moins en moins. C'est vrai. Imaginez que Jésus vous aime fort au premier jour et après vous aime de moins en moins. Ça serait pénible à vivre. Puis le dernier jour serait fatal. Mais nous, à sa rencontre, d'avoir un amour qui l'aime de plus en plus. Amen. Parvenir à la perfection. Hébreux 6,1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, tendons, hein, de plus en plus à ce qui est parfait, à la maturité. Hein, cela marque la nécessité d'aller plus loin de se présenter eh bien, au Jésus pour devenir parfait. Diapo 18. De plus en plus, mais aussi de mieux en mieux. Voyez-vous, notre croissance avance. Et dans ces diapos-là, en fait, c'est la transformation du caractère. Nous avons besoin de progrès, nous avons besoin de plus, nous avons besoin de mieux. Et nous avons besoin d'avancer comme cela, avec la grâce de Dieu. Paul, il parle aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 57. « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. » C'est mieux, hein ? « À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hein ? On a besoin de ce développement avec sa grâce, oui, pour avancer chaque jour. Oui, on peut de mieux en mieux, c'est le caractère. On avait parlé du fruit de l'esprit, hein, qui on apprend au fil du temps. C'est un travail de sanctification. Et on reflète de plus en plus, ou de mieux en mieux, la nature de Christ. Amen. Diapo 19. Notre croissance passe et passera aussi de victoire en victoire. La conquête des luttes spirituelles intérieures et dans ce monde, dans l'Église, dans les défis, les besoins. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. De victoire en victoire, ce terme, oui, nous montre aussi, oui, parce que nous avançons d'une victoire à une autre, et d'une autre à encore une autre. Saisissons par la foi en Jésus, eh bien, la transformation de vie, d'une vie qui dépend de sa victoire, de voir une âme sauvée, de voir peut-être quelqu'un de la famille se donner au Seigneur, de voir quelqu'un peut-être revenir au Seigneur, de voir le Seigneur nous baptiser du Saint-Esprit, nous donner les dons spirituels, de voir la grâce de Dieu atteindre des pécheurs. Il y a des victoires à prendre. Et le Seigneur est là pour nous aider. Oui, on peut penser à eh bien, dans ce ton sportif, l'équipe apprend que, eh bien, à chaque match, on s'améliore et on prend une victoire peut-être petite. C'est peut-être pas du 5-0, mais on prend une victoire et on avance et on continue avec la grâce de Dieu. On ne peut pas se laisser aller. On ne peut pas se laisser à être ce qu'on a été auparavant. On a besoin de se ressaisir, se motiver, se mobiliser pour ne pas lâcher prise. Mais le chrétien qui est dans la croissance va aussi avancer en victoire, de persévérer pour achever la course. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Amen. Diapo 20, notre croissance passera aussi par là, de grâce en grâce. Oui, dépendent de la faveur divine. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Et nous avons, eh bien, grâce pour grâce. Donc, ça nous définit que le Seigneur est capable de nous aider. Encore à témoigner à nos cœurs que nous ne méritons rien. Que tout nous est donné par grâce. Et de grâce en grâce, il va nous transformer, nous modeler encore dans cette connaissance, mais dans cette croissance. En sommes-nous arrivés à croire que Dieu nous devait le ciel? Avons-nous fini par croire que nous n'avions plus besoin de la grâce et au point de parler de petit lait? Nous, on est pour la nourriture solide. Mais non, si on est pour la nourriture solide, ça passera aussi toujours par la grâce de Dieu. Et on a besoin de tendre à l'exemple de Jésus, à son exemple, oui, de croire, de grandir, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen, Éphésiens 4.15, 2 Pierre 3.18, et de pouvoir découvrir encore le Seigneur. Alors là, l'apothéose, on va terminer par là, la 7, de gloire en gloire. Ce texte est sorti de 2 Corinthiens 3.17, je vous cite, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit, par le Seigneur l'Esprit. Amen. » Oui, cette ressemblance de Christ. Et vous savez que dans ce texte, il est parlé de Moïse, hein, qui avait la gloire de Dieu sur son visage. Comment est-ce possible, Moïse, selon la loi, avait-il une telle gloire sur lui? Oui, il semble que Moïse mettait le voile. Mais il mettait le voile, eh bien, après avoir parlé à Dieu. Hein, ce n'était pas au moment où il parlait à Dieu. Après avoir parlé avec Dieu, il rayonnait tel qu'il mettait ce voile, soit pour parler avec le peuple qu'il voyait. Ensuite, il remettait ce voile jusqu'à ce qu'il retourne dans la présence de Dieu. Et quand, en fait, c'est pas le voile qu'il mettait dans la présence de Dieu, c'est quand il en sortait. Regardez bien les textes. Et le voile était mis après. Pourquoi? Parce qu'il mettait le voile sur ce qui était passager, sur ce qui baissait, diminuait en intensité. Il avait la pudeur de cacher ce qui n'allait pas durer. Et donc, quand il retournait dans la présence de Dieu, il enlevait le voile, il était dans la présence de Dieu. Et ensuite, il remettait le voile parce qu'il ne voulait pas que les gens voient ce qui allait diminuer. Et vivre une transformation intérieure, une transformation de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. À visage découvert, de l'anglais, c'est white open face, à visage ouvert. Visage ouvert, sans masque, sans voile, sans rien qui nous cache, afin que nous recevions vraiment de lui. On n'est pas là pour avoir, eh bien, un voile sur notre visage. Mais on est là pour être à visage ouvert, à visage découvert, hein, d'après les termes grecs ana et kalupto, qui nous permet de voir, eh bien, cette réalité. Et en revenant à notre expression de gloire en gloire, c'est l'expression la plus puissante, avec un but ultime de ce progrès, de cette croissance. Que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Amen. Que le Seigneur puisse transparaître sur nous, afin que nous puissions encore refléter de son image. Oui, merci Seigneur pour ce processus, pour ce plan, pour tout ce qu'il veut nous enseigner par sa parole. Alors, vous avez vu, ces sept expressions sont une forme merveilleuse, synthèse et biblique de toute cette capacité à nous faire connaître et vivre cette croissance pour la gloire du Seigneur par l'Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Oui, ce soir, parce que ta parole est pour nous encore source de toute vérité, de tout enseignement, de tout appui véritable. Et Seigneur, merci de nous enseigner tes voies et merci de nous conduire dans toute ta volonté. Oui, Seigneur, tes desseins sont merveilleux. Tes plans se sont et s'accompliront encore et toujours. Oui, Seigneur, il nous est bon et privilégié de pouvoir dépendre de toi. Et Seigneur, fais-nous marcher, fais-nous connaître tes voies. Donne-nous de progresser, d'avancer de plus en plus, de mieux en mieux, de victoire en victoire, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Seigneur, plais-toi, oui, à nous conduire dans de bonnes habitudes et dans cette croissance du disciple. Que ton nom soit glorifié, que ton nom, Seigneur, soit honoré, Seigneur, dans nos vies, dans notre piété, dans notre quotidien, dans notre vie et pour ta gloire. Saisis-nous de ton esprit, saisis-nous de ta parole, et que toute la gloire soit pour Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, notre Père. Amen. Amen.